chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 105 FM Montréal.
CBL 105 Montréal.
Bonsoir, bon vendredi. Nous sommes le 5 avril, vendredi 5 avril. Donc, c'est le moment d'un nouvel épisode de l'émission Courant d'air, émission de radio qui, chaque semaine, va à la découverte d'un courant musical fascinant, méconnu, obscur, intéressant. Et cette semaine, nous allons voyager sur les vagues soyeuses du yacht rock. Bonne émission.
Call me a fool, you say it's a crazy scheme.
Ah, le fromage, tout ce fromage, ces progressions très cheesy. Vous aurez sans doute reconnu Steely Dan avec Deacon Blues. Et donc, ça introduit bien cet épisode sur le Yacht Rock, concept, on va dire, courant, un peu fabriqué là, par des journalistes qui en ont parlé par la suite. Et donc, heureusement, moi, je ne connais pas très bien le Yacht Rock, donc ça va être un plaisir de me familiariser avec le genre en compagnie. Et oui, je ne suis pas seule au micro ce soir. Je suis accompagnée du journaliste Dominique Tardif. Bonsoir, Dominique.
Bonsoir, Sophie.
Comment ça va?
Ça va très bien. Je suis très heureux de parler de Yacht Rock avec
oui,
toi.
Oui, j'en doute pas. Passion qui t'anime, si j'en crois juste mon souvenir de t'avoir côtoyé dans la vie.
Il m'arrive parfois, c'est ça, après avoir bu quelques bières. Quoique de la bière, c'est peut-être, un peu trop pauvre pour parler de Yacht Rock.
Oui,
on s'imagine un drink un petit peu plus sophistiqué, plus onctueux.
Il
m'arrive après quelques drinks comme ça d'abreuver les gens qui m'entourent d'informations inutiles, non sollicité,
non sollicité
au sujet du Yacht Rock. Et c'est ce que je vais faire ce soir avec toi. Je vais essayer de me rendre utile. J'ai dit inutile, mais je pense que ça va être utile ce soir.
Ben oui, tu as été invité, là, donc c'est sollicité cette fois-ci.
Merci.
Ce soir à courant d'air. Et donc, avant de commencer, si tu pouvais peut-être brièvement te présenter. Toi, tu es journaliste culturel, donc écris sur la musique.
Effectivement,
souvent.
Journaliste culturel, j'écris sur la musique. Je travaille pour la presse, donc j'écris sur la musique, la littérature, l'humour et essentiellement. Je fais ça depuis maintenant quasiment une quinzaine d'années, mine de rien. J'ai collaboré au Devoir, à une autre époque, c'est là qu'on s'est rencontrés,
oui,
toi
sommes,
et moi.
Nous nous sommes connus, deux journalistes du Devoir, exactement.
C'est ça. Puis donc, je fais la radio à l'occasion sur une autre chaîne, c'est-à-dire à la radio publique. Oui, c'est ça.
Très bien. Puis peut-être, tu es aussi notamment musicien toi-même, un drummer.
Non, pas en tout. C'est une grossière exagération ce que tu viens de faire là, Sophie. Mais j'ai joué de la batterie... Oui, quand j'étais ado, mais j'ai abandonné là au moment où j'entrais dans l'âge adulte parce que manifestement, j'étais pas très bon, j'avais pas beaucoup de talent, puis j'ai compris que c'était inutile de m'acharner parce qu'il y avait plein de gens qui étaient plus talentueux autour de moi, mais j'ai encore cette manie-là de jouer de la batterie dans les airs, du air drum, dès qu'il y a une chanson qui m'anime, c'est
ben
sûr,
oui, comme,
j'en ai joué tantôt.
Comme tu as fait pendant Steely Dan, donc tu incarnes vraiment la pièce de Yellow Molo, Gros Zéro. Passons outre.
Très belle manière de m'accueillir, ça, Sophie.
Comment tu as été mis en contact avec le Yacht Rock, là, pour revenir au sujet principal de l'émission?
Je saurais pas trop dire comment c'est arrivé. Là. C'est sûr que... Ben en fait, je pense que Steely Dan, je les ai découverts. Ils sont entrés dans ma vie grâce à la série de documentaires qui s'appelle Classic Albums, qui a été diffusée à partir de 1997. C'est une série anglaise, okay, qui était diffusée à Musimax. C'est là où je l'ai visionné pour ma part. Donc, c'était sous-titré en français. Chaque épisode de cette série-là est consacrée à un album classique de l'histoire de la musique populaire, comme le dit le titre. Puis, dans la deuxième saison, en 99, il y a un épisode qui est consacré à Steely Dan. L'épisode sur Rumours de Fleetwood Mac est merveilleux aussi. C'est un des meilleurs documentaires sur la musique, point barre, l'épisode sur Fleetwood Mac, sur Rumours. Celui sur Aja, donc l'album de Steely Dan, l'album légendaire de Steely Dan, est très, très bon aussi. C'est le genre de documentaire typique. En fait, c'est eux qui ont formalisé un peu le concept de mettre les créateurs d'un album, les replacer dans le studio où ils ont enregistré l'album en question. Puis là, on entend, comme dans le balado, le podcast Song Exploder, on peut avoir accès aux différentes pistes. Donc là, par exemple, dans Deacon Blues, Walter Baker et Donald Fagen, les deux membres principaux de Steely Dan, vont nous faire écouter la batterie, parce que la ligne de batterie,
bien
le
sûr,
jeu de batterie de Bernard Purdy dans Deacon Blues est exceptionnel. Puis là, pendant quelques instants, on peut avoir la chance d'entendre seulement cette partie-là de la chanson.
Il y a les scènes, là, les gros plans sur les doigts qui bougent, les
voilà,
boutons de studio. Oui, je vois.
Comme ce que fait Maurice présentement, notre technicien adoré. Voilà.
Très bien. Ben écoute, merci pour ce saut dans le passé là, grâce à Musimax. Donc peut-être
merci,
brièvement brièvement donc la pièce qu'on vient d'entendre, tu l'as mentionné, Deacon Blues de Steely Dan.
Ouais.
Pourquoi est-ce que tu as choisi cette pièce là pour introduire le genre en question?
Le genre, le yacht rock, comme tu le mentionnais d'entrée de jeu, c'est une création, en fait moins de critiques musicaux que de parodistes. C'est né d'une web-série qui a été diffusée sur le web en 2006, si je ne me trompe pas, de 2005 à 2010, qui mettait en scène des personnages donc de musiciens, Michael McDonald, certains musiciens, Christopher Cross, certains musiciens de Steely Dan, mais des versions fictionnalisées, de même parodies. C'est un peu comme si, dans les années 2000, quelqu'un avait créé une web-série autour de personnages de Pierre Bertrand, puis de Gilles Valiquette.
Ouais.
Je peine à trouver d'autres exemples, mais c'est aussi absurde que ça, et c'est ce qui a créer l'effervescence autour de ce qu'on appelle le yacht rock. Aujourd'hui, si tu syntonises, par exemple, la radio satellite, il y a une chaîne consacrée au yacht rock dans les applications d'écoute en continu. Tu peux aller écouter des playlists de yacht rock. Mais avant 2006, le yacht rock, c'est quelque chose qui n'existait pas. Puis, donc, les créateurs de cette web-série-là ont donné ce nom-là à ce genre-là qui est très, très... C'est un genre qui est très lousse. Les critères sont très stricts parce qu'il était souvent question dans les chansons de Yacht Rock, il est souvent question de faire du bateau de Yacht. Puis il y a plusieurs des pochettes d'albums des artistes phares du Yacht Rock sur lesquels on voit des bateaux. Le premier exemple de ça, ce serait l'album de Crosby, Stills & Nash qui est pas vraiment un groupe de yacht rock là, qui est yacht rock adjacent, disons.
Ouais.
Leur album de 77, on les voit tous les trois sur le bateau de David Crosby. Là, je peux te montrer la pochette ici. Ils sont là tous les trois. Ces beaux messieurs qui se trouvent sur un bateau. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du yacht rock. Puis...
Donc, c'est un peu une reconstruction là, comme des années plus tard, parce que là, on parle des années fin 70, bon, début 80. Clairement, donc la nomenclature est apparue beaucoup plus tard. Donc,
exactement.
Ces musiciens-là n'étaient pas conscient de faire du yacht rock, si
pas
je te comprends
tout.
Bien.
Puis on y reviendra peut-être, mais il y a certains musiciens qui ont embrassé l'appellation, puis il y en a d'autres qui l'ont complètement rejeté, qui trouvaient que c'était trop réducteur que de nommer leur genre, de réduire leur genre musical à un simple bateau, à une embarcation nautique.
Mais
exactement.
Eux, ces gens-là qui le refusent se voient comme produire du genre de soft rock?
Du soft rock ou du neo-soul ou de la blue-eyed soul. C'est
du prog peut-être? Il y a un peu de prog dans le...
Ben, il y a quelque chose certainement de jazzy. Là, je peux peut-être t'énumérer les principaux critères définitoires du yacht rock tel qu'élaboré par les créateurs de la web-série dont je parlais. Il est question de sophistication au plan de la réalisation, de high production value, de l'emploi de musiciens de studio. Donc, c'est le cas de Steely Dan. Steely Dan, au départ, c'est un vrai groupe, là, comme on l'entend au sens habituel. C'était cinq gars qui enregistraient chacune des pistes de chacune des chansons. Mais à partir de leur quatrième, cinquième album, le duo fondateur du groupe, Walter Becker et Donald Fagen, ont mis de côté les autres musiciens qui, eux, souhaitaient faire de la tournée, alors que Donald Fagen, le chanteur, lui, refusait, détestait monter sur scène. Donc, ils ont cessé de faire de la tournée pour se concentrer sur le studio et engager pour chacune des chansons différents musiciens. Donc, il y a sur chacune des pièces de Aja, dont est tiré Deacon Blues qu'on entendait, ce sont des musiciens différents qui jouent sur chacune des chansons. Donc, ça, c'est un autre des critères. Des influences jazz et R&B, l'emploi du piano électrique, puis des paroles complexes au sujet de peine de cœur et d'hommes qui s'illusionnent, foolish men. C'est le cas dans Deacon Blues. Deacon Blues, c'est l'histoire d'un gars qui se projette dans une carrière de grand saxophoniste de bebop, mais qui
est pas bon.
Ben non, qui est pas bon, c'est ça. Qui est un homme ordinaire comme moi, qui a rêvé de jouer de la batterie, mais qui avait pas le talent nécessaire pour s'illustrer. Donc, c'est ça le cliché. Quand on se moque de la musique de Steely Dan ou quand on la célèbre d'une manière un peu ironique, on va souvent la décrire comme la musique de papa divorcé, là, d'homme sur le retour d'âge dans la quarantaine, cinquantaine, qui se découvre des passions pour les drinks sophistiqués et pour le bebop, le jazz,
un peu comme
le saxophone.
Pas.
Tout ça, puis ben, c'est une exagération, mais il y a quelque chose qui n'est pas complètement faux là-dedans. Ouais.
Eh bien, c'était un jugement éditorial, mais ben, donc les critères sont quand même assez lousses, comme tu dis, ça peut renvoyer à beaucoup de choses, mais je pense qu'on a quand même une idée là, de ce à quoi on renvoie.
Il y a aussi, puis là, on va le constater au courant de cette heure-ci, il y a aussi que plusieurs des mêmes musiciens se retrouvent sur chacun des albums. Donc, Michael McDonald, qu'on entendra tantôt, a collaboré à titre de choriste avec Steely Dan, mais est aussi devenu le chanteur principal des Doobie Brothers et a enregistré lui-même des albums en solo. Donc, sa voix se fait entendre sur plusieurs albums importants du Yacht Rock. Ça a contribué à créer, à ce qu'on identifie, disons, cette nébuleuse. On pourrait parler d'une nébuleuse.
Ouais. Ça arrive souvent, en fait, qu'il y a ce constat-là qui est mentionné, notamment dans Courant d'air, parce que c'est vrai que ça, parler d'un genre, ben, en fait, c'est ça. Il y a un peu des côtés un peu... je vais pas dire incestueux, mais les gens se recroisent.
Tout à fait.
Ben merci pour cette explication. Écoute, je te propose qu'on aille écouter une autre pièce tout de suite, comme ça on va se mettre bien en bouche là ce Yacht Rock. Je vais te proposer qu'on écoute Donald Fagen avec la pièce IGY.
Ouais.
What a Beautiful World. Et on se retrouve après. Yeah.
Time to
On a le droit de chanter à CIBL.
Ben oui. Surtout à mon émission. C'est Upbeat.
Oui, oui, c'est tiré de l'album de Nightfly. C'est le premier album de Donald Fagen qui est paru, premier album solo de Donald Fagen qui est paru en 82, donc après la dissolution de Steely Dan, parce qu'il y avait des conflits entre Walter Becker et Donald Fagen, comme il y en a
toujours des conflits.
Toujours des conflits, mais ils ont fini par se réconcilier, puis ils ont lancé un album, un grand album retour en 2001, il me semble, qui a remporté qui avait fait scandale parce que ça avait remporté le Grammy de l'album de l'année face à Eminem, qui était la grande star du moment.
En 2001, oui.
Alors que Steely Dan, c'était l'histoire ancienne aux yeux, où c'était un groupe. C'est là que bien des gens avaient écrit, mais où de F est Steely Dan?
Ouais.
Alors que c'était une évidence que, selon eux, Eminem devait gagner.
Mais bon,
les Grammy ont souvent un biais envers les groupes vieillissants, les groupes d'une autre époque.
Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais c'est sûr que, écoute, ça fit au bout avec ce que tu dis.
C'est donc, en 2000, c'est ça. Two Against Nature, c'est l'album retour de Steely Dan en 2000, qui est très, très bon aussi, mais j'ai pas choisi d'extrait de cet album-là parce qu'on peut pas écouter que du Steely Dan.
On est à la source. Donald Fagen, donc, donc c'était tiré de son premier album solo.
C'est un hommage à un album concept autour des disques jockeys. Son hommage aux disques jockeys des radios qu'il écoutait dans son enfance. Lui habitait au New Jersey. Walter Becker, lui, a grandi sur l'île de New York, ce qui a contribué aussi à leur amitié parce que Donald Fagen était très fasciné par l'aisance avec laquelle Walter Becker se comportait en ville, alors que lui était toujours demeuré le petit gars de banlieue qui rêvait d'un jour se promener dans les rues de New York. Donc, c'est son album hommage aux radios qu'il écoutait dans sa chambre durant son enfance.
Très bien. Donc, il y a des provenances quand même loin des vagues de la Floride.
Oui, c'est ça.
L'amour
ça a marqué la trajectoire de Steely Dan parce qu'ils ont commencé tous les deux à faire carrière à New York. Ils ont été engagés par une maison de disques. C'était à l'époque où les maisons de disques engageaient des équipes d'auteurs-compositeurs afin d'alimenter leurs interprètes. Mais rapidement, le gars qu'ils avaient engagé a constaté que leur chanson était juste trop bizarre. Il y a une de leurs chansons qui est enregistrée par Barbra Streisand, mais c'est à peu près le seul moment où une interprète d'importance a chanté une de leurs pièces. Puis ils sont donc déménagés ensuite à Los Angeles. Puis c'est à ce moment-là que Steely Dan est devenu Steely Dan et a trouvé sa véritable identité.
Je vois que je m'adresse à un passionné. J'aimerais juste t'interrompre pour quelques secondes pour qu'on introduise la prochaine pièce qu'on va faire jouer.
Oui.
Buzz Skaggs.
Buzz Skaggs.
Qui est-ce?
C'est un musicien donc américain qui lui aussi donne dans ce qu'on appelle blue-eyed soul. Là, c'est un terme qui sert à décrire qui quelque chose de qu'on pourrait presque dire de raciste.
Ok. Parce que soul aux yeux bleus. Là.
Ouais, c'est comme c'est de la soul mais faite par des blancs. Donc de la soul un peu lavée de son identité propre puis de son
de comme ce qu'on pourrait appeler reggae de Police.
Son élément de danger, disons. Si on est raciste, on pourrait voir un élément de danger dans de la musique créée par des personnes noires, alors que si cette musique là nous est présentée par des personnes blanches. Soudainement on se sent en confiance. Donc on pourrait qualifier la musique de Buzz Skaggs de blue white soul, mais c'est un gars qui a commencé à enregistrer le premier album en 65, donc on est bien avant ce qui va devenir le Yacht Rock. Mais à partir de... Il y a d'ailleurs un de ses albums qui a été réalisé par le fondateur de Rolling Stone Magazine, dont je vais essayer de retrouver le nom, puis je n'y arriverai pas, mais c'est pas bien grave.
On peut...
Yann Wenner. C'est ça son nom. Mais à partir de son septième album, Silk Degrees, là, il se met à faire de la musique vraiment plus funky. Il va engager certains musiciens, dont Jeff Porcaro, le batteur. C'est... les musiciens qui vont engager, c'est eux qui vont former Toto. J'ai pas choisi de chanson de Toto aujourd'hui.
Ça aurait pu.
J'aurais pu, parce que c'est un groupe important du Yacht Rock, mais je voulais pas vous imposer, vous mettre dans la tête le refrain de la chanson Africa.
Dès qu'on en parle, ça arrive.
J'ai choisi une pièce de son 9e album qui s'appelle Middleman. Pochette bien misogyne. Boss Skaggs est allongé sur les cuisses d'une femme. Donc, c'est un très bel album, cela dit. C'est une chanson qui s'appelle Jojo.
C'est parti.
Le balado Les solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h.
C'est CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal. Montréal.
Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 101.5 au cœur de Montréal.
Bonsoir, re-bienvenue à Courant d'air, émission du 5 avril. Ce soir, nous abordons le Yacht Rock, courant, on va dire fabriqué a posteriori, mais quand même qui on sent que le fil conducteur est là. Je suis accompagnée toujours par Dominique Tardif, grand fan visiblement de Yacht Rock.
Tout à fait, complètement. Un de mes genres musicaux préférés. Je suis très content là, qu'on ait entendu Michael McDonald parce que c'est la voix par excellence, c'est la voix emblématique du Yacht Rock.
The Voice.
The Voice.
Oui, vraiment, clairement, c'est une voix qu'on a entendue beaucoup de fois. Là.
Oui, c'est ça. Puis cette chanson-là, donc, qui est tirée de son premier album en solo parce que Michael McDonald a aussi chanté, il est aussi membre des Doobie Brothers, il a remplacé le... Les Doobie Brothers, c'est une histoire complètement fascinante. Il y a un texte qui est paru il y a quelques années, je pense que c'est l'an dernier, dans Rolling Stone Magazine. Puis la première scène du portrait des Doobie Brothers, on est dans un avion, dans l'avion privé des Doobie Brothers. Mm-hmm. Puis il y a de la turbulence et il y a du vomi. Je suis désolé de vous mettre cette image-là dans la tête, okay, ce beau vendredi soir, qui vole et qui est en suspension dans les airs pendant qu'on est dans un moment de turbulence. Donc ils ont pris beaucoup de drogue, ils ont vécu. C'est un peu ironique parce que la musique, le yacht rock ne crie pas sexe, drogue et rock'n'roll, mais les Doobie Brothers, en tout cas, eux ont complètement embrassé le mode de vie sexe, drogue et rock'n'roll. Donc, il était membre des Doobie Brothers, a remplacé le premier chanteur des Doobie Brothers parce que celui-là avait des problèmes d'alcool trop importants puis n'arrivait pas toujours à terminer les concerts. Donc, on a engagé d'abord Michael McDonald comme claviériste pour s'assurer qu'il y ait au moins quelqu'un qui sache chanter sur scène s'il de malheureuses choses se produisaient. Puis, donc, le premier chanteur a quitté. Là, aujourd'hui, les deux sont dans le groupe. Il y a eu tellement d'incarnations différentes des Doobie Brothers. Mais maintenant, les deux font partie du groupe et tournent encore. Et voilà, c'est ça.
C'est ça. Je vais juste dire le titre de la chanson qu'on a entendue. I Keep Forgetting, entre parenthèses, Every Time You're Near. Évidemment, je ne sais pas, moi, je l'ai entendue des millions de fois, cette pièce-là, mais j'avoue que je ne connaissais point Michael McDonald.
Si tu la connais, si tu l'avais en tête, c'est peut-être aussi parce que, comme c'est le cas de plusieurs chansons importantes du Yacht Rock, elle a été échantillonnée par Warren G, qui est un rappeur associé au G-Funk, donc à la côte ouest américaine, au rap. Il l'a échantillonné dans sa pièce à lui, qui est un grand succès, qui s'appelle Regulate, qui est paru en 1994, dans laquelle on entend la voix magnifique de Nate Dogg aussi.
C'est la ligne de basse?
La ligne de basse, exactement. Mm-hmm. Le clavier, tous les éléments accrocheurs de la chanson de Michael McDonald ont été empruntés par Warren G. Steely Dan aussi a été très, très souvent échantillonné par des artistes hip-hop.
Des bonnes pièces de sampling. Oui, absolument. Ben oui, le groove est là. On parle de personnes blanches, mais il y a comme un
c'est des personnes
présent.
Blanches. Les personnes blanches sont capables de groover quand même parfois.
Parfois.
Certaines d'entre elles.
Oui, c'est ça. Nous en sommes d'ailleurs.
Ah, nous, on groove sans arrêt. Là. Ah, oui. On ne fait que groover.
On est aussi blanc. Oui. Passons outre. Michael McDonald, écoute, j'aimerais ça qu'on se dirige plus vers ici, là, parce que, évidemment, le genre a fait des petits, a quand même influencé. Un peu comme dans chaque grand courant états-unien, on se l'approprie au Québec. Et donc, c'est le cas aussi avec les sonorités Yacht Rock.
Tout à fait. Il y a quelques années, je collaborais à l'émission « On dira ce qu'on voudra » à la radio publique. Puis, je m'étais comme ça donné la mission de traduire certains genres musicaux, tenter d'identifier leurs représentants au Québec, puis trouver un terme, une traduction appropriée. J'avais sollicité à ce moment-là mes amis sur ce qu'on appelait Twitter à l'époque. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait répondu, c'est Mathieu Valiquette son nom, je pense qu'il travaille à Ici Musique, qui était arrivé avec le terme que j'aime beaucoup, rock de plaisance.
Ah oui, très bien.
Qui est efficace de plein de manières parce que c'est de la musique plaisante et de plaisance, on pense tout de suite à une embarcation de plaisance.
De plaisance
un yacht est une embarcation de plaisance. Puis les principaux artistes, il y en a quand même plusieurs qui ont embrassé d'une manière ou d'une autre les sonorités du yacht rock au Québec dans les années 70-80. Est-ce qu'on s'en va vers qui, Sophie et Claire, moi?
Bien, on va commencer par Diane Tell. Propose.
Diane Tell, c'est la reine du yacht rock pour plein de raisons, notamment parce que elle vient du jazz, Diane Tell, puis le yacht rock s'inspire beaucoup du jazz. Aussi parce qu'elle a enregistré ses trois albums. Elle a une trilogie d'albums là, qui sont très, très yacht rock. C'est Entre nous en 79, En flèche en 80, puis Chimère en 82. Ce sont des albums sur lesquels... Ce sont des chefs-d'œuvre, ces albums-là. Et ce sont des albums qui, dans tous les cas, ont été enregistrés avec des groupes de musiciens à moitié québécois.
Okay.
Et, donc, une moitié de musiciens québécois et une moitié de musiciens new-yorkais. Et les albums, dans la plupart des cas, ont été enregistrés à New York. Donc, on entend toute cette sophistication-là dans la production, dans la réalisation que j'évoquais en début d'émission. Puis, dans le cas de la pièce qu'on va entendre, c'est Miami, n'est-ce pas?
Exactement.
On a la meilleure ligne de basse, la plus irrésistible ligne de basse du rock de plaisance, gracieuseté d'Alain Caron, bassiste du groupe Uzeb, parce que le jazz fusion, donc auquel est associé Uzeb,
bien sûr,
a quand même est cousin du yacht rock, disons. Pas le côté mélodique, le côté chansonnier du yacht rock.
Dans le même diagramme de Venn.
Et voilà, c'est ça, la zone entre les deux, entre le yacht rock et le jazz fusion dans le diagramme de Venn, elle est très, très grande. Donc, c'est Alain Caron qui joue de la basse dans Miami, puis c'est vraiment une ligne de base. C'est un musicien qui est parfois réputé pour en mettre un peu trop, qui met un peu trop la gomme, mais dans Miami, c'est tout ce dont on a besoin dans une ligne de basse.
On va aller écouter ça tout de suite. Mort de rire à Miami.
On est mort de rire en studio aussi.
1980, donc tiré de un des trois albums que tu as mentionné.
Oui, c'est tiré de l'album En Flèche. Exactement. De Diane Tell, Alain Caron à la basse. Puis je parlais donc de ce mélange de musiciens québécois et de musiciens américains. Dans cette chanson-là, c'est un monsieur qui s'appelle Willie Hall qui joue de la batterie. Donc, musicien américain, batteur américain, qui a joué aussi avec Aretha Franklin puis Isaac Hayes. Donc, c'est un monsieur qui s'y connaissait en matière de véritable soul. Puis c'est tout le génie de Diane Tell et de son réalisateur, lui aussi américain, réalisateur de ces albums-là, Carl Marsh, qui savait créer ces groupes-là, qui apportaient chacun leurs influences et qui savait insuffler un groove magnifique.
Mettre le monde, mettre le monde ensemble.
Et voilà.
Miami, écoute, ça sent l'été, là, comme on pourrait dire.
Tout à fait.
Mais donc, comme tu l'as mentionné, tu t'étais forcé à investiguer ce genre-là au Québec. Donc, Diane Tell n'est pas la seule. Il y a d'autres gens qui se sont un peu trempés les pieds un peu dans ces sonorités-là.
Tout à fait. Un autre artiste important puis un peu moins connu du rock de plaisance, du yacht rock à la québécoise, c'est un monsieur regretté chanteur, auteur-compositeur qui s'appelle Gilles Rivard. Son album de 1981, En couleur, a longtemps été un album très, très prisé des collectionneurs de vinyles. Je pense qu'il l'est encore, okay. Mais c'était un vinyle très, très rare qui valait quand même assez cher. Si tu avais une copie originale de l'album en couleur de Gilles Rivard, tu étais chanceux. Okay. L'album a été réédité en vinyle par Return to Analog, là, qui est l'étiquette qui réédite plusieurs albums obscurs ou importants de l'histoire de la musique québécoise. Gilles Rivard, Pierre Légaré, l'humoriste, a collaboré... avec lui, a écrit des textes, des paroles de chansons pour Gilles Rivard. On sait peu que Pierre Légaré a fait ça. Il a aussi écrit pour Judy Richards, mais principalement pour Gilles Rivard, qui était un de ses bons amis. Puis, sur la chanson qu'on va écouter dans quelques instants, on entend le jeu de guitare d'un autre musicien important qui a défini le son du rock de plaisance. Je pense que comme c'était quelque chose de super savant, mais ce n'est pas du tout. il s'appelle Jean-Marie Benoît, guitariste là, qui a joué avec à peu près tout le monde dans les années 70-80 au Québec, qui, mm-hmm. qui était admiré. J'ai eu la chance de faire une entrevue récemment avec Normand Bratois qui me parlait de sa grande, grande, grande admiration pour Jean-Marie Benoît, qui est décédé en 2009. Son dernier projet, ça a été de créer, un de ses derniers projets importants du moins, ça a été de créer la musique du film La Grande Séduction, mais il avait aussi signé la musique de Ding et Dong, le film. Il joue de la guitare sur Miami, la chanson de Diane Tell, et il joue de la guitare dans la pièce Je reviens.
Donc, on va ben écoutez, auditeurs, auditrices, écoute Dominique. Je suis très contente d'être mise en contact avec Gilles Rivard.
Jamais trop tard pour découvrir Gilles Rivard.
Je n'ai pas en couleur chez moi, mais il n'est jamais trop tard pour le découvrir. On va aller écouter, comme tu as dit, Je reviens.
Je suis perdu en terre connue. Mis le jour, chercher la nuit dans des avenues pleines d'inconnus. Marcher au fil des habitudes, enivré de ma solitude. La masse qui se déplace en oubliant où est ma place. Je reviens de ce long voyage, je reviens pour te retrouver, je reviens pour te célébrer, je reviens. Je reviens pour te retrouver, je reviens pour te célébrer, je reviens. Chercher la nuit dans des avenues pleines d'inconnus. J'ai fui l'amour du fond de moi, je l'ai retrouvé avec toi. J'ai cru en moi une autre fois, repris la route qui mène chez toi. De ce long voyage, je reviens pour te retrouver, je reviens pour te célébrer, je reviens. Je reviens de ce long voyage, je reviens pour te retrouver, je reviens. Je reviens. long voyage, je reviens. Pour te retrouver, je reviens. Pour te célébrer, je reviens. Je reviens.
Je reviens. Ah, c'est catchy. Catchy. Je dois dire que le Yacht Rock, en partant, c'était pas mon genre préféré, même si je suis curieuse de le découvrir.
Je mais te là, gagne je... à l'usure,
ben,
Sophie.
C'est ça, là, ça grow on me, comme on dit en bon français.
Je te disais à micro fermé tantôt qu'un autre des critères définitoires du Yacht Rock, ça pourrait être la question suivante. En fait, si tu peux répondre oui à la question, est-ce que cette chanson-là pourrait jouer chez Zellers?
Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de Zellers.
Non, c'est ça. Donc, on ne peut plus... passer le test, faire passer le test aux chansons en se rendant chez Zellers et ouais, en les faisant ça. Jouer.
On pourrait, il faudrait trouver un...
Mais faites-le jouer dans le Zellers qui loge quelque part dans
c'est
votre
ça,
esprit.
Dans votre cerveau.
Ouais.
Le votre souvenir, doux souvenir de, nostalgique du Zellers. Bon, eh bien, c'est le moment, le moment triste, car c'est déjà presque, oh! presque la fin de cette... ben oui, je sais, à chaque semaine, ça
passe. Je pense qu'on devrait proposer à CIBL une émission hebdomadaire consacrée au rock de plaisance.
Eh bien, je te la donne. Ça peut être ton projet à toi, ça. Je pense que tu vas avoir assez de stock à dire.
Je vais aller parler au patron en sortant de ici.
C'est bon. Ben oui, donc l'émission tire déjà à sa fin, comme à chaque semaine. Ça passe beaucoup trop vite quand on parle de musique et qu'on découvre des choses fascinantes. Ben oui. Dominique, peut-être oui. Un dernier petit mot sur le rock de plaisance au Québec.
Oui, ben, ça aurait été une grave erreur que de ne pas parler de Pierre Bertrand, qui
bien
est selon
sûr.
Moi la grande voix du rock de plaisance. C'est on parlait de Michael McDonald tantôt. Michael McDonald est la grande voix du Yacht Rock et Pierre Bertrand, c'est le Michael McDonald québécois. Parce que lui aussi, bon, c'est une grande voix, on l'a entendu sur ses albums en solo, sur les albums de Beau Dommage, mais il a
bien
été
sûr.
Choriste sur un paquet d'albums d'artistes important de son époque, notamment Paul Piché, là, tous les grands disques de Paul Piché. On entend quelque part la voix de Pierre Bertrand. Grand, grand chanteur. J'aurais pu sélectionner la pièce Un air d'été,
bien
qui
sûr.
Est l'hymne de rock de plaisance par excellence. Mais puisqu'on l'a beaucoup entendu, j'ai choisi une chanson qui n'est pas si Yacht Rock que ça, finalement, mais que j'aime beaucoup. C'est tiré du premier album de Pierre Bertrand, album homonyme de 1981. J'aime cette pièce-là parce que je suis un grand fan. J'écoute pas que du Yacht Rock. Je suis un grand fan.
Ben oui, je sais.
Je suis un grand fan d'Offenbach. Offenbach a lancé en 79 un album qui s'appelle Traversion, qui est probablement le meilleur album. C'est comme un genre de album de meilleur succès, mais c'est pas un album de meilleur succès, c'est un véritable album. Et la plupart des textes de cet album-là, des paroles, ont été écrites par Pierre Huet, parolier aussi de Beau Dommage, membre fondateur de Beau Dommage, ami de Pierre Huet. J'ai eu l'occasion un jour de faire une entrevue avec Pierre Huet et de lui demander est-ce qu'il y a des chansons, des chutes de studio, des pièces qu'on n'a jamais entendues de l'album Traversion. Et il me raconte qu'il y a une seule pièce qui s'intitule « J'ai la fièvre », qui avait commencé à être enregistré par Offenbach, qui a été rejeté au final, qui ne se trouve pas sur l'album Traversion, mais...
Donc, écrite par Pierre Bertrand,
écrite par Pierre
Huet.
Okay. Mais Pierre Huet avait confiance en cette chanson-là et l'a proposée à son ami Pierre Bertrand, qui, lui, l'a enregistrée sur son premier album en solo en 1981. Donc, c'est une pièce qui est peut-être un petit peu plus rock que strictement Yacht Rock. Pendant qu'on va l'écouter, je vous suggère de vous imaginer que c'est Offenbach qui la joue,
plutôt que
les musiciens de Pierre Bertrand.
Ça aurait sûrement eu un rendu tout à fait différent.
Ouais.
Avant qu'on se quitte sur le son de Pierre Bertrand, Dominique, ben, je tiens à te remercier d'abord d'être venu à Courant d'air.
Ça fait grand plaisir. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça.
Ben oui, ça faisait longtemps que j'espérais que tu puisses venir visiter les studios de CIBL.
Mais c'est la preuve que ça nous arrive quand on y croit. Hein.
Ah, c'est beau.
Comme le chantait Mario Pelchat.
Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être aller voir si on veut te suivre? Tu écris pour la presse notamment.
Effectivement.
Podcast aussi, on
oui,
peut aller t'écouter.
Vous pouvez écouter.
Si on a aimé t'entendre parler, on peut le faire plus.
Il m'arrive de parler, quoique bon, dans mon balado, l'idée c'est davantage de mettre en valeur les gens que je rencontre et qui m'accordent des entrevues. Mon balado donc que je présente avec la presse se nomme Juste entre toi et moi. C'est disponible sur les plateformes de la presse ainsi que sur toutes les plateformes où se trouvent des balados.
Très bien, ben ça me permet de faire le pont avec si vous avez envie d'écouter cet épisode en balado, justement, vous pouvez aller les trouver, le trouver, et ainsi que tous les autres épisodes de Courant d'air sur Spotify, Apple Music, ou sinon, vous pouvez les retrouver sur la page de Courant d'air sur le site CIBL 101.5.com. C'est ça. Je remercie également à la mise en onde Maurice Bolduc. Merci d'avoir été avec nous. Encore un gros merci, Dominique.
Ça fait grand plaisir.
On va se laisser, c'est ça, sur J'ai la fièvre de Pierre Bertrand, mais on imagine que c'est Offenbach.
Oui, c'est ça, parce que la version d'Offenbach, on l'a jamais entendue. Elle existe nulle part. Donc, c'est le texte de Pierre Huet, le texte original, mais une musique écrite par, notamment par Pierre Bertrand et certains collaborateurs dans cette version-ci.
Sur ce, bon week-end. À la semaine prochaine.
La fièvre et des blancs de mémoire. La fièvre, juste le coup de la voix. J'ai la fièvre, j'ai envie de ces lèvres qui s'en trouvent dans le noir. J'ai la fièvre, je suis faible et j'ai tort de l'aimer si.
Salut, ici Philippe Papineau et je suis à la barre de l'émission Francophile tous les mercredis de 10h à midi. Francophile, c'est 2 heures de bonne musique en français, un pied dans le son du moment et l'autre un peu plus nostalgique. À tout de suite.
Décadence. 3 heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence.
Les vendredis soirs, dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end.
Votre week-end. CIBL, au cœur de la décadence.
CIBL 101.5, Montréal.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
Bonjour, ici Marc Levassin. Je vous souhaite la bienvenue à Django et compagnie.